Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. Un dimanche magnifique déjà parce que c'est la fête des mamans. Évidemment, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête Sarah. Et puis aussi parce que c'est une journée de sport mémorable avec la finale de l'Euroleague avec Monaco face à Fenerbahçe. C'est à 19h sur RMC, la première journée de Roland-Garros. On retrouvera Eric Salio évidemment pour toutes les dernières informations tout au long de la journée avec l'UBB, avec le Paris Saint-Germain, avec le Grand Prix de Monaco. C'est à 15h sur RMC. Bref, on a déjà évoqué beaucoup de débats dans cette émission et on continue durant une heure dans quelques instants. L'UBB sur le toit de l'Europe, les Bordelais sont-ils désormais favoris du top 14? Nous serons en direct de Cardiff mais également en direct de Bordeaux pour la grande fête qui se prépare. 11h30, le dossier des GG. Alors ça va vous plaire, mais GG, la polémique Montmartre pour la dernière étape du Tour de France 2025. Certains coureurs n'ont pas hésité publiquement à montrer leur mécontentement. Sont-ils trop frileux? On se posera la question. Et puis 11h45, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre sur un sujet d'actualité qui va vous passionner, j'en suis sûr. Mais tout de suite, Bordeaux, capitale du rugby.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Pour entrer dans l'histoire, 80 minutes s'inviter à la table des grands. 3, l'Union Bordeaux-Bègle, aux portes de l'histoire. C'est parti pour cette finale.
Mathieu Jalibert,
deux crochets, il part où Mathieu Jalibert?
Mathieu Jalibert,
de Dan Coleman. Qu'est-ce qu'il nous a fait Mathieu Jalibert?
Et l'Union Bordeaux-Bègle qui prend les deux dans cette partie.
C'est contré, voilà. Et récupéré par les Anglais. Ah non, encore Penaud qui s'arrache et qui va
essayer de Penaud.
Ils envoient ce ballon et le doublé pour Damien Penaud.
Je crois que c'est Mathieu Jalibert qui est allé gratter le ballon.
Ouais, c'est pour Northampton, c'est le doublé d'Alex Conge. Les Anglais ont puni l'Union Bordeaux-Bègle. La sanction est immédiate, les Saints ne lâchent rien. Égalité parfaite à la mi-temps, rien n'est fait. Ça va être une deuxième mi-temps de fou furieux.
De feu.
Et c'est Bordelais en puissance. Oh, je vous l'avais dit, le déménageur landais, Cyril Cazot. Lui aussi, c'est un enfant de l'UBB. Et lui aussi, il va faire un bien fou à son équipe. 28-20.
Et c'est terminé. L'Union Bordeaux-Bègle rejoint Toulouse, Brive, Toulon et La Rochelle et décroche la Champions Cup 2025. Bordeaux sur le toit de l'Europe.
Ouais, énorme, on le disait, pour ce club. Premier trophée de l'histoire de l'Union Bordeaux-Bègle qui en appelle d'autres parce que ses joueurs sont encore jeunes et ils ont envie de tout croquer. Elle va faire du bien et elle lance une vraie dynamique pour cette Union Bordeaux-Bègle.
La dynamique, justement, on va en parler. La plus belle page de l'histoire du LUBB vient de s'écrire. C'était donc hier à Cardiff avec ce sacre en finale de la Champions Cup. L'Union Bordeaux-Bègle a remporté, vous l'avez entendu, le premier trophée de l'histoire du club qui ne comptait jusque-là qu'une finale de top 14 après Toulouse, Brive, Toulon, La Rochelle. L'UBB devient donc le cinquième club français à inscrire son nom au palmarès de la plus prestigieuse coupe européenne. Après avoir sorti le grand Stade Toulousain en demi-finale, les Bordelais arrivent lancés désormais pour la course au bouclier de Brennus. La musique qui fout les jetons. Et cette question: est-ce que l'UBB devient le nouveau favori du top 14? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Sarah Pitkowski?
Bah si, un de plus.
Ok. David Douillet?
Non, pas encore.
Non, pas encore. Jérôme Pinault?
Oui, mais pas l'unique.
Ok, merci les copains. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC. Il est à Cardiff, c'est Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut JC, salut les GG.
Alors après ce sacre, tu as retrouvé évidemment les Bordelais. Sont-ils des hommes nouveaux, des joueurs différents?
Un petit peu quand même, hein. Ils vont avoir une étoile sur le maillot la saison prochaine. Ça fait plusieurs années que les Bordelais couraient après cette reconnaissance, après des demi-finales, après une finale traumatisante l'an passé. Le palmarès s'écrit enfin et c'est la grande fierté du capitaine Maxime Lucu.
On avait envie de s'asseoir à la table des grands, comme on disait depuis maintenant deux saisons. L'année dernière on a échoué, cette année on a inscrit une étoile sur notre maillot, sur le fanion du club. Donc déjà, ça veut dire qu'on aura marqué l'histoire de ce club en gagnant pour la première fois une Coupe d'Europe et un premier titre depuis la fusion. Donc non, honnêtement, d'abord c'est ça.
Car l'UBB a brisé son plafond de verre et se place maintenant comme un gros bras du rugby français face à tous ceux qui lorgnent sur le bouclier de Brennus. Alors le regard des adversaires va-t-il changer? La réponse du demi d'ouverture, Mathieu Jalibert.
Bah forcément, quand on arrive à gagner, je pense qu'il y a un peu plus de respect. Voilà, depuis quelques années,
années, on était cette équipe qui était en phase finale, mais qui n'arrivait pas à gagner. Pas oublier non plus qu'on est un club jeune qui se construit, et ça fait que maintenant 4-5 années qu'on joue le haut de tableau. Donc voilà, on est resté humble, même après la défaite l'année dernière en finale. On n'a pas parlé, on a continué à travailler, à croire en nous. Et voilà, aujourd'hui, on est récompensé, donc on est content. C'est pas le regard de nos adversaires, mais s'ils nous prennent à la légère, tant mieux. Ça sera encore une plus belle surprise.
Une surprise peut-être pas, mais quand on parlait de reconnaissance, il faut saluer en à peine 15 ans l'immense travail fait pour aller de la Pro D2 au toit de l'Europe. Un homme a tout traversé, c'est le président Laurent Marty, et lui ne veut pas s'arrêter là.
C'est un premier objectif d'atteint, c'est une récompense pour le travail qu'on a tous fourni, mais c'est pas un aboutissement. Moi, dans mon esprit, c'est si on fait un titre et qu'après on fait pchit, ça sert à rien. Donc j'espère qu'on va se remettre en ordre de marche pour aller chercher d'autres titres. Je crois que le premier, c'est peut-être le plus difficile, mais ça ne veut pas dire que les suivants sont faciles.
Certainement pas, mais le plus difficile, c'est de durer. Bon, vous l'avez entendu, les Bordelais sont prêts à relever le défi.
Exactement, exactement. Et le défi du doublé, hein. Forcément, on y pense avec cette finale du top 14, même si ce n'est pas encore fait. Merci Wilfried Templier. On sent qu'il a beaucoup crié hier à Cardiff, notre ami Wilfried. On retrouvera Romain Asselin dans quelques instants, notre envoyé spécial à Bordeaux, pour nous décrire cette fête incroyable. L'UBB, eh bien, est-ce que l'UBB devient le favori du top 14? C'est non pour Christophe. Pourquoi non?
Non, c'est non, parce que on oublie qu'il reste un club en France qui a été battu en demi-finale et qui doit avoir des boules comme ça d'avoir été battu et de voir aujourd'hui son grand rival régional, parce que Toulouse et Bordeaux, c'est quand même les deux grandes villes de la Garonne qui sont séparées d'à peine 2 heures de route et qui sont un véritable terreau de rugby en France. Et bien de voir que le rival bordelais est parvenu à ses fins en devenant champion d'Europe après avoir battu Toulouse, je pense qu'à Toulouse on doit l'avoir mauvaise, et que ce club, même s'il a été battu et largement battu sans aucune contestation possible en demi-finale, eh bien ce club va se remettre en question, et pour moi il reste le favori pour gagner le titre de champion de France.
Juste parce que ils ont les coronets,
c'est non parce que ils fournissent les trois quarts de l'équipe de France de rugby,
convaincu, tu as été quand même convaincu par le jeu par l'UBB, que ce soit en demi-finale face à Toulouse
il y avait beaucoup d'absents côté toulousain ce jour-là. On va voir si avec les deux équipes à effectifs au top, comment ça va se passer après. Laisse-moi finir de t'expliquer. Bordeaux vient d'être sacré champion d'Europe. C'est la fête. Je sais pas quel état ils sont ce matin. Je sais pas comment ils vont fêter ça. Ils ont deux matchs capitaux qui arrivent samedi prochain, samedi d'après, pour terminer dans les deux premiers. C'est-à-dire la première place, elle est pas possible.
C'est indispensable pour terminer dans les deux premiers.
Ça t'évite un barrage qui est un match vraiment à la vie, à la mort. Si tu arrives à t'en sortir, et c'est pas encore tout à fait gagné, mais ils ont quand même de bonnes chances de le faire, tu te qualifies directement pour la demi-finale, et a priori, tu vas te diriger vers la finale. Mais moi, j'ai qu'une hâte, c'est voir cette finale, voir la revanche.
Mais oui,
la
mais
revanche
bien sûr.
C'est la belle, parce que Toulouse a gagné l'année dernière, a éclaté Bordeaux en finale du championnat. Bordeaux a pris sa revanche en demi-finale de championnat.
C'est quoi le pourcentage si on a Toulouse UBB en finale? Je parle de cette année. C'est quoi le pourcentage de chance pour l'UBB? Tu les mets toujours en dessous de Toulouse?
Il faudra voir les effectifs en place à ce moment-là.
C'est dans un mois.
Et voir comment.
S'ils récupèrent tous leurs blessés sauf Dupont, oui, tu les mets au-dessus.
Toulouse a pris un coup de pied au cul comme ils n'en avaient jamais reçu
depuis des années. L'UBB a stoppé le cercle négatif face à Toulouse, une première
victoire, t'es champion d'Europe, t'as enfin un titre. Mais tu te rends,
ils vont pas baisser. Et tu penses qu'ils ont pas le couteau entre les dents après avoir réussi à battre Toulouse en demi-finale et se dire que s'ils retrouvent
un petit peu moins
et que le bouclier de Brennus, il sera beaucoup plus près pour eux que celui de l'année dernière où effectivement comment ne peut-on pas mettre l'UBB beaucoup plus favori que l'année dernière,
dans Toulouse, c'est une finale, c'était pas la question. Bordeaux, c'est Bordeaux qui gagne
pour moi, ils deviennent forcément favoris,
donc favoris devant Toulouse.
Non,
Bah, toi, au même titre, au même titre que Toulouse. Mais c'est ce que j'ai répondu, au même titre que Toulouse.
Ah oui, même titre. D'accord. Donc tu mets pas un favori. Tu mets pas un favori.
Bah, t'as le droit d'avoir plusieurs favoris.
Non, dans une finale, tu peux pas avoir deux favoris, t'en as.
Ils y sont pas en finale.
Non, ils y sont pas en finale. On nous pose la question aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, avec ce qu'a montré l'UBB et surtout, alors il y a ce titre, mais il y a ce match face à Toulouse en demi-finale où enfin ils battent leur pire ennemi. Ben, je ne vois pas comment on ne peut pas mettre l'UBB favori de ce
match. Donc, t'es un peu peut-être d'un coup, peut-être d'un clown. Il y a deux favoris en finale, c'est super, ça. Avec un truc comme ça, on va aller loin. Ça va faire avancer le
mec. Ok, les autres. Ok, vous laissez la parole, les autres. David, tu veux intervenir?
Ouais, non, mais. Sarah, tu aurais raison si cette année, pendant le championnat, l'UBB n'avait pas eu 8 défaites. Tu vois, s'ils avaient été écrasants, 16 victoires, s'ils avaient eu 24 victoires...
C'est dur de finir sur la longueur sur un championnat.
Je sais bien, mais 8 défaites, c'est 8 défaites. Et puis, je trouve que vous enterrez rapidement, t'as Toulon, t'as Bayonne, c'est un embûche. Non, mais c'est des clubs sérieux.
Oui, mais pas pour le
dis pas que c'est pas des clubs sérieux. J'ai juste qu'on peut dire toujours que Bayonne est favori du top 14. Mais bon, là, on va chercher loin, ouais, on va pédaler.
Ils sont. Non, mais c'est bien. Je parlais d'embuscade. Tout le monde se focalise.
Ça peut arriver, oui.
Toulouse, ça peut arriver. Tu vois, parce que moi, le sport m'a appris un truc. Hein, quand tu te focalises trop sur un des joueurs, sur une des équipes, t'en oublies les autres et tu négliges peut-être les autres. Attention! Attention, là il y a une victoire, attention. Tu vois, la victoire, ça te fait monter sur un pic qui est monstrueux. Les autres sont revanchards, comme le disait très justement Christophe. Et attention, il n'y a pas que Toulouse, il y a les autres aussi.
David, tu as raison. En ce moment, l'UBB, sur cette fin de saison, elle a un grand danger. C'est ce qui lui arrive de plus beau, c'est ce titre. Parce qu'ils sont, dans une très bonne dynamique, donc pour le coup on oublie les 8 défaites parce que la dynamique elle est vers... Mais par contre il y a la gestion des émotions et la gestion des hommes. On sait que dans le rugby on aime fêter et très vite il va y avoir deux gros objectifs pour eux pour finir à cette fameuse deuxième place qui est si importante et pas de jouer un plus un match de barrage.
Il y a la gestion. Il aurait fallu qu'il perde.
Il y a la gestion du.
Attends
Sarah, il y a autre chose et moi je voulais ajouter ça, c'est que face à Toulouse il n'y a pas de contestation possible, mais Toulouse perd des joueurs titulaire dès le départ. Hier, cette finale est dominée par l'UBB. En 28 minutes, 26 minutes, on perd 3 joueurs titulaires du côté anglais.
Oui.
Il y a un parcours, il faut aussi tracer. J'ai gagné, je suis positif, mais ils ne sont pas sur le toit du monde. Quoi. Donc c'est pour ça que moi je dis, ils sont dans la course, ils sont favoris, mais la plus grosse erreur de l'UBB, ce serait d'oublier. Et je pense qu'en plus, comme tu disais Christophe, la victoire de l'UBB en donne encore plus envie à Toulouse.
Bah oui.
On se revoit au Stade de France parce que
tu
as sorti Mola Toulouse et tu gagnes. C'est pas pareil que ils vont aller taper des champions d'Europe qui les ont tapés en demi. Non, voilà. S'ils gagnent, t'as vu, on a remis l'église au milieu du village. Donc, il va y avoir les deux prochains matchs pour le top, pour l'UBB là à venir sont extrêmement dangereux
et
physiquement.
Révélateur de ce qui peut se passer.
Révélateur de ce qui va se passer.
Je trouve que le président de Bordeaux, Marty, a rappelé tout le monde à l'ordre avec cette phrase qui est un peu passée inaperçue, mais je l'ai trouvée très intéressante. Lui a dit : je préfère être champion de France. Donc après la victoire en Champions Cup,
c'est pas la bonne saison, c'est ça.
Mais pour tous les clubs français, il y a une hiérarchie en termes de trophées et des clubs comme l'UBB, comme La Rochelle n'ont jamais été champions de France et ils ne rêvent que d'un truc, c'est de décrocher le bouclier qui dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif du rugby français est plus importante que la Coupe d'Europe.
Alors, on va aller prendre la direction tout de suite de Bordeaux, comme
ça,
promis.
Ça, c'est bien, parce qu'il va y avoir la fête à Bordeaux.
Avec Romain Asselin.
Romain Asselin est allé se baigner dans la Garonne, je ne sais pas dans quelle état il est.
Toujours. J'ai perdu l'audition, les gars, hier. Il y avait trop de bruit.
Salut Romain, tu vas vivre une journée historique, évidemment, aujourd'hui à Bordeaux, avec le retour des héros.
Oui, un moment de communion tel que Bordeaux n'en a plus connu depuis 2009 et le titre des Girondins de Bordeaux en Ligue 1. Des Girondins pas loin d'être rayés de la carte du foot français l'été dernier. Bref, une éternité que le peuple bordelais peut enfin effacer. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues autour des Quinconces, la plus grande place de France, où sera présenté le trophée à 16h après une heure de parade. 700 mètres à franchir la foule pour le bus à Impérial, des parcours de l'intendance. Bah tiens, vous savez quoi, on va se plonger un peu dans l'ambiance. Bel avant-goût hier soir quand tout Bordeaux a chaviré. Écoutez, la Libération au coup de sifflet final, c'était au Quinconce justement, transformé en fan zone géante. Mille supporters ont suivi la finale ici sur écran géant. Scène de liesse garantie au milieu des fumigènes et des cris. Et tout un lot d'émotions aussi.
J'ai même pas les mots. Bordeaux, champion d'Europe. Voilà.
C'est la première fois et il faut le vivre pour le croire.
Quelque chose de fou. Bientôt l'étoile sur le maillot. Comment être plus fier que ça, quoi.
C'est une coupe du monde, quoi.
De voir la ville comme ça, c'est
voir l'apéro.
Ça fait vraiment chaud au cœur.
Avec concert de klaxons le long de la Garonne, des drapeaux agités dans tous les sens, des chants qui ont résonné une bonne partie de la nuit, histoire de célébrer enfin le retour de Bordeaux sur le devant de la scène.
Des années qu'on attend ça.
C'est tout le cri d'un peuple. Une ville quand même qui est assez conséquente et on n'avait pas encore marqué l'histoire du rugby.
Les Girondins, ils sont plus là. C'est l'UBB qui reprend le flambeau, c'est magnifique. On aime aussi les Girondins ici. Mais bon, c'est l'UBB qui prend le premier titre de champion d'Europe.
Allez l'Union !
Et ça c'est très bien.
Alors, une question agite le peuple bordelais ce matin. Les joueurs de l'UBB vont-ils se mettre tout nus, place de la Bourse, Paris révélé hier soir, vous l'avez entendu par Mathieu Jalibert. En tout cas, Jalibert, l'enfant du pays, héros de Cardiff, est particulièrement attendu. Et écoutez le clin d'œil, il va vous plaire celui-là, le clin d'œil de Michel au sélectionneur du 15 de France.
Bravo Jalibert, parce que le pauvre Jalibou, il en a foutu plein la figure. Hein. Mais là, Galtier,
Bon, vous demandiez tout à l'heure si l'UBB devient maintenant le favori du top 14. Bah, la réponse, elle est évidente dans les rues de Bordeaux.
On a la Coupe d'Europe, maintenant on veut le Bredus. Voilà. On est comme tout le monde, on est gourmand. Hein.
Et maintenant Bordeaux a remplacé Toulouse sur le support. Bon,
voilà, ça m'a énervé. Merci Toulouse.
Enfin le doublé. Enfin bon, c'est écrit quoi. C'est écrit.
Ouais, bon, d'ici là, place à la communion et départ donc de la parade des champions à 15h cet après-midi à Bordeaux.
On fera toujours des reportages magnifiques avec Romain Asselin, qui est toujours dans les endroits chauds. Il avait été à La Rochelle, à Bordeaux, et ce sera à suivre et à vivre évidemment sur RMC. Tiens, il y a William qui nous appelle. Il était hier sur cette place donc célèbre et la plus belle place et la plus grande place de
12
France.
12 hectares.
Au Quinconce.
La superficie de l'esplanade des Quinconces, c'est 12 hectares.
William, bonjour.
Et bonjour les gars, bonjour tout le monde.
T'as encore ta voix, William?
Ouais, un peu, je l'ai récupéré un peu quand même.
Bon, réponds à cette question, t'as entendu certains supporters avec toi, bordelais, est-ce que tu penses que maintenant vous êtes favori du top 14?
Non. Clairement non.
Ah.
Pourquoi?
Alors je l'explique, parce que alors là, mon avis, là, ils sont tous en plein pic d'adrénaline complet. Il va falloir faire attention au match d'après. C'est-à-dire, le match d'après, c'est Toulon. Et Toulon, eux, ce qu'ils veulent, c'est la deuxième place pour recevoir. Donc, eux, ils vont se donner à fond. Tout le monde va vouloir taper le champion d'Europe maintenant. C'est comme si le PSG gagnait l'année prochaine. Tout le monde va vouloir taper le PSG. C'est normal. Donc, il va falloir faire attention à la gestion des émotions sur le match d'après. Et c'est ça qui va être le plus compliqué pour les Bordelais qui n'ont pas l'habitude de gagner contre Toulouse, comme Toulouse.
Ouais.
Le banc fera la différence. Le banc de Toulouse est largement supérieur au banc de Bordeaux. Il faut se dire la vérité.
Bon, bah voilà, William.
Ouais, même si le banc de
merci
Toulouse.
William, pour ce témoignage.
Il y avait beaucoup d'absents, justement, en demi-finale côté toulousain. Et le banc n'a pas fait la différence comme il le faisait habituellement. Mais moi, je suis d'accord avec ce que dit
l'argument qu'amène William, c'est ça.
Ouais.
Et le match d'après, la gestion de l'événement.
Comment tu gères la fête d'après, comment tu gères le prochain match, et après, et surtout, comment va gérer ton adversaire.
Parce que tout président que M. Marty est. Quand les Lascars ils sont lancés pour leur dire attention les gars on gère parce que il y a des matchs qui arrivent là ils en ont clairement rien à secouer.
Ils sont très professionnels. Hein,
oui mais là pendant les deux jours que tu fais là la fête ce qui est normal il faut fêter les titres. C'est deux jours de perdu dans ta prépa pour le match d'après que va pas faire Toulon.
Ah ouais.
Déjà t'attaques pas
le
à égalité.
PSG, en revanche te fais pas la fête aujourd'hui.
Bah ouais, mais
en Coupe de France.
Pour le coup.
Bah oui c'est ce que j'allais
pas
dire.
Collectif.
En fait on a pas cette inquiétude pour le PSG qu'on a pour.
C'est un premier titre dans l'histoire.
Parce qu'ils en sont à 36 titres, ils les enfilent comme des perles. Alors que Bordeaux c'est leur premier.
Mais après la victoire un peu je sais pas si on dit inattendu, mais en tout cas peut-être moins programmé de l'UBB qui bat Toulouse en demi-finale. Le match d'après était aussi important. Est-ce que vous pensez pas que Yannick Bru et toute l'équipe, ils ont pas su aussi gérer le fait de dire, OK, on a battu Toulouse, mais on a un titre à aller chercher?
Ah oui, oui, bien sûr.
Je vous trouve très sceptique sur l'inquiétude du fait que l'UBB pourrait avoir une redescente et finalement.
Ils vont être un tout petit peu en dessous de ce qu'ils ont été jusque-là, parce que là c'était vraiment leur but. Et je pense surtout que leurs adversaires vont être largement au-dessus de ce qu'ils ont été. Je dis pas qu'ils vont être largement au-dessus de l'UBB, mais s'il y a une finale Toulouse-Bordeaux, je donne 60-40 en faveur de.
Ok, les amis, on aura le temps d'en reparler. C'est dans un mois cette finale.
50-50, donc comme
du tu vas pas te mouiller.
À qui veut gagner les millions, oui, ça marche.
Ok, hein. Et on ne connaît pas encore l'identité évidemment des deux finalistes. Il faut encore passer les barrages et il y a un championnat à terminer avec deux journées.
Toulon va peut-être régler tout ça, ou La Rochelle va peut-être régler tout ça.
Pourquoi pas. Merci Wilfried Templier à Cardiff, merci Romain Asselin à Bordeaux, évidemment toute la communion, le retour des héros, c'est à suivre sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour une polémique, la polémique de Montmartre. On a aimé Montmartre l'année dernière pendant les Jeux Olympiques, mais sur le Tour de France c'est un petit peu moins le cas visiblement. Les coureurs sont-ils trop frileux? On en parle dans quelques instants, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h29, toujours avec Sarah Pitkowski, David Douillet, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Le débat caché, vous allez l'aimer, mes GG. Je sais que ça va vous interpeller, ça va vous prendre au trip. Vous allez avoir envie de dire quelque chose. Hier, il était de grande facture, et là, il est encore de grande facture.
On monte en gamme.
On met des notes maintenant à son débat caché. Hier, moi, j'ai mis 8
sur 10
dans 7.
C'est 8, je crois.
Julien. Non, je t'ai mis 7.
Ok. Bon, j'espère que j'aurai.
J'espère que tu auras la moyenne aujourd'hui.
J'espère, en tout cas. Mais là, on va parler.
C'est la période des examens, Jean-Christophe.
Mais je sais, on a Jérôme Pinault dans cette émission. Donc, quand on a Jérôme Pinault,
on va présenter l'émission pendant encore 15 ans. Fais gaffe.
C'est dans son contrat, on est obligé de parler vélo.
Exactement.
RMC. Le dossier des GG.
C'est pas mal quand même de faire du vélo dans les rues de Paris ailleurs que le circuit habituel Champs-Élysées de fin de Tour de France.
Oui, c'est plutôt sympa. Hein. C'est difficile à renouveler. Il n'y a pas 10 ans tous les ans. C'est extraordinaire. L'ambiance fantastique. Les coureurs du premier au dernier vont garder un souvenir extraordinaire de ce passage.
On pourrait pas varier cette dernière étape du Tour?
C'est pas moi qu'il faut poser la question. C'est difficile de bloquer la ville pour permettre à une cycliste de se dérouler.
Bon, d'accord, on profite, il n'y aura pas de lendemain.
Ah oui, il faut en profiter. C'est pas grave. One shot.
C'est fou, hein. Jean-Louis Tour avait déjà tout vu. Il s'occupe du foot, vous le savez, dans Rotten sans flamme, et pourtant, il avait tout vu. Il posait déjà la question à Marc Madiot l'été dernier.
Qui a de l'influence, t'as vu, il dit, c'est pas moi qui décide, mais il a quand même fait remonter
l'idée.
Pendant
la course en ligne, on le connaît, Marc Madiot. Les cyclistes ne vont pas avoir une dose, mais trois doses. Pardon, Jérôme. Cette semaine, les organisateurs du Tour de France ont présenté le tracé très attendu. Donc de la dernière étape de l'édition 2025, avec la confirmation de la butte Montmartre que les coureurs emprunteront trois fois, comme pour se rappeler de l'ambiance assez surréaliste vécue durant cette course en ligne des Jeux Olympiques. Un tracé pas du tout au goût de certains coureurs. Remco Evenepoel, la question lui est posée, est-ce qu'il s'attend à une grande bataille?
Honnêtement, j'espère que ça ne sera pas le cas. Je pense que on aura déjà assez de stress dans la première semaine, puis il y aura beaucoup des étapes dans la dernière semaine qui seront assez dures, donc pour moi on peut garder l'étape assez plate sur les Champs-Élysées et pas nécessairement prendre encore la montée de Montmartre, parce que ça va donner encore plus de stress et plus de tension dans le peloton.
Le double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, n'est pas fan non plus. Voici ce qu'il a déclaré. Pour être honnête, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Montmartre m'a semblé très beau aux Jeux Olympiques avec une très bonne ambiance. Mais quand les coureurs y sont arrivés, il en restait 50 dans le peloton. Ça va ajouter du stress plus qu'on ne le voudrait. Le directeur du Tour de France a tenté de déminer la polémique. Christian Prudhomme.
Il y a les réactions de l'instant et les réactions ensuite au moment de l'étape et après l'étape. Incontestablement, Montmartre va davantage faire rayonner encore le Tour de France. Lorsque nous avons inscrit au parcours du Tour les chemins blancs l'année dernière, on n'a pas forcément fait un tabac auprès des coureurs. Lorsqu'on a remis au goût du jour les pavés, même topo, les centaines de millions de téléspectateurs dans le monde qui regardent l'arrivée finale du Tour verront que la France est un sacré beau pays et Paris une sacrée belle capitale.
Et voilà Christian Prudhomme qui se défend très bien, il répond aux coureurs. Est-ce que les coureurs sont trop frileux, oui ou non, Jérôme Pinault?
Ah bah oui.
Oui, Sarah Pitkowski.
Oui.
Oui aussi, ok, David Douillet.
Oui.
Ok, Christophe Cessieux. Oui. Oui, tous contre les coureurs. Ça m'étonne de vous. Bah, Jérôme, tu commences. Pourquoi oui?
C'est pas contre les coureurs, c'est que les coureurs, ils disposent d'un menu et c'est à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Si les coureurs et s'il y a des grands coureurs qui sont capables de prendre la parole dans le peloton au moment de cette étape-là et de dire bah il y aura pas d'étape, on va la passer tranquille, la butte Montmartre, c'est à eux de faire la course. Maintenant, le parcours est très bien dessiné puisqu'ils proposent la butte Montmartre à quelques kilomètres de l'arrivée sur les Champs. Bah, tant mieux, c'est une très belle étape. Quand on met des chemins blancs, quand on met des passages pavés, quand on met des cols difficiles pour les sprinteurs, le stress, la tension dans le peloton, j'ai envie de vous dire, Remco, Jonas, si vous avez peur et si vous avez peur d'avoir la pression et du stress, bah faites des Coupes de France, faites des Coupes de Belgique, ne venez pas sur le Tour. Le Tour, ça fait partie de l'élément qu'il faut savoir gérer pour remporter le Tour de France. Vous avez remarqué que Tadej Pogacar ne s'est pas prononcé en défaveur de cela. Ça sera une très belle étape. Je vois pas pourquoi sur les 21 étapes du Tour, il y en a une qui soit boycottée parce que on fait un défilé. De temps en temps, c'est bien. Là, c'est un héritage des Jeux. Monter la rue Le Pic à la butte Montmartre, ça va être très spectaculaire. Ça va être le dernier juge de paix de cette grande boucle. Si c'est pas déjà joué, parce qu'il y aura aussi certainement déjà des gros écarts.
Est-ce que le fait de monter trois fois cette rue Le Pic jusqu'à la jusqu'à la butte Montmartre, est-ce que ça peut changer le classement du Tour? Est-ce que c'est pas de ça dont ils ont plus
affirmatif,
peur?
Affirmatif. Et alors?
Non, mais quand Fignon a fait le dernier, la dernière étape, le dernier, c'est plus une parade, quoi.
Quand Laurent Fignon a perdu le Tour de France sur un dernier chrono, il aurait aimé faire un défilé avec la Coupe de Champagne. Ouais. Il aurait gagné le Tour. Tant que la ligne n'est pas terminée, la course n'est pas gagnée. Et cette course-là, cette étape traditionnellement. Revient à un sprinter parce qu'on roule tranquille jusqu'au champ. J'ai été coureur, j'ai apprécié au moment du départ de pas avoir le dernier stress de la journée. Mais s'il y avait eu une étape, j'ai été aussi une année dans l'équipe de Marc Cavendish, j'avais le stress. Et ben ça passe, c'est une étape de plus et ça se fait.
C'est trois semaines le Tour de France, c'est trois pas semaines. Deux semaines et six jours.
Et à l'approche de cette butte Montmartre, de la rue Le Pic, ceux qui auront encore envie de ne pas perdre du temps. Et ceux qui auront le classement général à protéger, ça va faire une cinquantaine de coureurs. On n'interdit pas les autres de se relever.
Mais non, mais ce que je trouve incroyable dans ce débat, et Christophe, toi qui connais parfaitement le Tour de France, c'est que souvent, ce sont les médias qui voient une nouveauté et qui en font donc un débat. Là, il est amené tout seul par les coureurs et des coureurs très connus. Je veux dire des coureurs qui jouent la gagne.
Oui, mais bon,
c'est quand même assez rare de voir des coureurs qui se mouillent sur un Tour de France qui est la course la plus iconique
du monde. C'était assez rare, mais depuis quelque temps, les coureurs cyclistes sont très revendicatifs. Ils ont raison parce qu'ils expriment des revendications en matière de sécurité. Alors ça passe quand il râle parce qu'une organisation de course laisse entrer sur un parcours une voiture en sens inverse et renverse des coureurs. Ça évidemment
ils sont tout à fait
dans leur droit. Ils s'insurgent aussi parce qu'un parcours est mal fléché et les envoie sur une voie sans issue. Bon, je comprends que là ils peuvent aussi
aller sur le mauvais parcours alors que c'est bien fléché.
Ouais, mais là franchement, je suis désolé quoi, un peu les gars. Si ils sont pas d'accord et s'ils ne se sont pas satisfaits parce que les organisateurs organisent, eh ben ils ont qu'à organiser leur propre course. Mais enfin, les organisateurs du Tour, ils sont là pour essayer de proposer un spectacle génial. Il a raison, Christian Prudhomme. L'étape des chemins blancs l'année dernière à côté de Troyes, ça a été l'une des étapes les plus sympas du Tour. Et même à la fin de l'étape, les mecs étaient là. Ouais, c'était quand même bien. C'est dur, évidemment. Bah, c'est les héritiers des forçats de la route, les coureurs cyclistes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les mecs de la CGT qui revendiquent chaque semaine, parce qu'ils sont pas contents. Ah bah non, on va pas aller faire cette étape, elle est trop dure. Et puis le Tour, ah bah il faut que ça s'arrête. Nous on aime bien notre dernière étape. C'est bon les gars, faites du vélo ou aller à la plage quoi.
En sachant qu'en plus il y a deux choses qui sont très très particulières à pointer. C'est toujours les mêmes. Souvent les équipes de Remco Evenepoel n'est jamais trop d'accord avec ce qui se passe et on a tapé en début de saison sur l'étoile de Bessèges qu'on a fait arrêter et qu'on a failli faire disparaître parce que a priori la sécurité n'est pas assurée. Ce sont des coureurs qui sont toujours en stage. Venez faire des courses, venez vous frotter au peloton tous les week-ends, vous verrez.
Il a fait deux courses dans la mienne, c'est sûr que ça
la dernière chose que je voulais dire là-dessus, il y a le Giro d'Italia en ce moment. Hier, il y avait une étape qui arrivait en Slovénie, à Nova Gorica. L'étape, les 60 derniers kilomètres parcours urbain, 10 km à parcourir 6 fois. Il y avait 18 virages, des secteurs pavés. Tout le monde est tombé, il y a eu des cassures. il y a pas de grève, hein. Il y a pas les grosses têtes d'affiche, les mecs qui sont sans arrêt en stage sur le volcan et qui font deux courses dans l'année. Ceux-là ne sont pas là. Ben, ça a fait la castagne hier. Résultat, c'est un Mexicain qui a repris du temps sur la Ayuso, le grand favori. Et le Giro, grâce à ces étapes-là, est très passionnant, alors qu'on n'a pas fait une seule étape de montagne encore. Ouais. C'est la solution. Ça va effacer ces nombreuses étapes où il se passe rien parce que tout le monde a sa stratégie et que les leaders veulent surtout pas prendre de risques. Et ben voilà, tant mieux.
Il y aura vous tapez tous les trois sur les coureurs. Je voudrais entendre David.
On tape pas sur les coureurs. On dit juste qu'ils doivent disposer du menu.
J'ai l'impression que t'es dans le même son de cloche pour toi.
Oui, parce que moi j'étais étonné de l'argument qui a été pris par des tauliers. Hein. Si j'avais entendu ces arguments-là par les porteurs de bidons, là je me serais peut-être inquiété. Mais là, c'est les tauliers. L'argument invoqué, c'est de dire, voilà, la côte, très bien, elle est étroite. Lors des Jeux, ça s'est bien passé parce que il y en avait 15 qui étaient devant. Et évidemment, au niveau sécurité, ça s'est bien déroulé. Or là, le Tour de France, c'est 150 coureurs qui vont arriver là-dedans tambour battant. Et ça va être un carnage. Grosso modo, c'est ça. Mais je suis désolé, si quand tu t'appelles Evenepoel, quand tu t'appelles Vingegaard, t'as les moyens d'être devant et d'être protégé de ce type de problème. C'est le gros du peloton qui pourrait avoir peur et qui devrait avoir peur de ce genre de choses. Or, on a entendu absolument personne. Donc, je trouve que ils ont un petit peu peur, ce que disait Jérôme tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord avec lui, c'est que comme ça peut changer la donne, si les deux ou trois premiers se tiennent en 10 secondes ou 20 secondes, eh ben c'est quelque chose qui pourrait changer la donne et qui pourrait relancer le Tour de France. Oh. Je crois que l'arrivée sur la dernière montée, elle est 6 km après.
6 km 300.
Ils seront très heureux s'ils sont derrière Pogacar et qu'ils jouent la gagne.
Et surtout, le vainqueur de l'étape de Paris sera, pour une fois depuis Alexandre Vinokourov et avant Eddy Seigneur qu'on salue, qui avait gagné en solitaire sur les champs, pas un sprinter. Mais probablement pas un sprinter.
Moi je pense la pas dernière qu'il y aura chose, il y aura pas la bagarre pour le classement général, je pense que ça sera classé.
Après, mais s'il y a des cassures dans la dernière montée, ça va donner un autre spectacle. Et puis faut se rappeler aussi que, et je reviens à ce que je disais au début, c'est un passeport être coureur cycliste professionnel. Il y a des choses à remplir et il y a des choses à faire pour avoir le bagage complet. Et la course qui sacre le plus complet de tous les coureurs, c'est le Tour de France. Et pour être complet, ben il faut savoir tout faire. Et pour apprendre à faire des choses, ben il faut aller passer par exemple dans des goulets en pavé comme le Pocopenberg, le Kemmelberg, le Patersberg, le Vieux Coirmont. Ça, Tadej Pogacar, il fait. Lui, il y va. Oui. Tous les mois de mars, avril, il va se frotter. Il a fait Paris-Roubaix. Les autres, ils sont où? En stage aux Canaries. Bah ouais, mais sauf que la rue Montmartre, ça va plus ressembler au Copenberg et à l'eau de Coirmont qu'une route de montée du TID.
Et
pour gagner le passeport, il a raté un virage. Et pour faire ce que le Tour est, c'est-à-dire quand tu gagnes le Tour de France, tu es un héros et tu es l'un des plus grands champions, parce que le Tour de France, Elle sacre un coureur complet. Et ben pour être complet, il faut savoir rouler sur
le mot de la fin, Sarah.
Est-ce que le fait que les coureurs soient mis devant le fait accompli et que ça tombe,
mais ça c'est pas leur rôle.
Oui, mais
ça,
je pose la question de manière très proche du Tour de France. On sait que le tracé du Tour, ou en tout cas les étapes du Tour, sont révélées en octobre. Donc on se prépare. Peut-être que on anticipe les courses qu'on va faire en fonction des étapes du Tour de France. Donc est-ce que le fait que cette validation arrive aussi tardivement, et ces plaintes et ces inquiétudes, est-ce que finalement ça traduit pas le fait de dire Coco, vous nous faites un truc à la dernière minute, j'ai pas le temps de me préparer, j'ai pas le temps d'ajuster ma préparation. La question
qu'on peut se poser. Il n'y a pas besoin de préparation spécifique pour passer la rue Lepic. Faut bien comprendre.
Tu viens de dire que ceux qui roulent sur les pavés et les portions que tu cites, il faut savoir les prendre.
S'il y avait eu la rue Lepic envoyé en mois de novembre le détail de la rue Lepic, c'est pas pour autant qu'on aurait vu Remco Evenepoel et Vingegaard sur le Tour des Flandres. Hein. Et puis il faut savoir une dernière chose, c'est que des rues comme la rue Lepic, en vélo, on fait 40, 50, 60 jours de course, on en passe des centaines.
Ah oui, c'est ridicule. Bien et sûr. Puis Evenepoel, c'est grâce à cette rue qu'il a aussi été sacré champion.
Lui, il a gagné, c'est la même que l'année dernière, faudra lui dire.
Ok, bon, bah, très bien. Écoute, je pense que si les coureurs, eh bien, nous ont entendus, vous avez exposé de bons arguments. Et si Christian Prudhomme nous a entendus, vous êtes tous embauchés, voilà, pour travailler sur le Tour de France.
Mais non, mais franchement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais chaque année, ils essayent de nous trouver des trucs
fantastiques.
Nouveaux.
Ce qu'il y a, c'est que d'habitude, Christophe Cessieu est en total relâche sur la dernière étape du Tour à Paris. Ah, là,
c'est
ça le problème.
D'habitude, il y a les
d'habitude, ouais, il sort la peine au départ.
Là, c'est plus possible.
Les habitudes.
Tu vas devoir gérer le stress.
Jusqu'au dernier jour, concentré.
Mon 25e tour.
Allez, 11h43, on se retrouve dans quelques instants. Le débat caché qui va vous faire réagir. Peut-être bondir, je ne sais pas. Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46 de retour avec David Douillet, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Christophe Cessieux. C'est la dernière ligne droite de ces grandes gueules du sport de folie. Hein. On a évoqué l'UBB, le Paris Saint-Germain, Teddy Riner, Roland Garros, le Grand Prix de Monaco. Évidemment, beaucoup de sujets que vous pouvez retrouver en podcast. Sachez qu'à partir de midi, toute la Dream Team des Paris sera là pour parler de Roland Garros, les matchs du jour, les Français évidemment, mais aussi le tableau final. Qui va remporter ce Roland Garros?
Là, en tout cas, il y a un Sonmez-Vitolina. Là, c'est passionnant.
Oui, il y a eu 600
points. Là, je peux te dire que là, il y a du monde.
On retrouvera Eric Salio dans 10 minutes sur RMC. Mais tout de suite, mes GG, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Vous ne savez rien et pourtant, dans quelques instants, vous allez débattre d'un sujet d'actualité. Votre guet-apens du jour. Mon débat caché, celui que j'ai choisi pour vous spécialement aujourd'hui, c'est ça.
Le pauvre Philippe Châtrier, dans le monde entier, tout le monde le sait, et même Novak Djokovic vous dira la même chose, c'est la maison de Rafael Nadal, c'est son endroit, c'est son cours.
Que l'on soit vainqueur ici, 22 titres du Grand Chelem, il est espagnol, Rafael Nadal.
Le roi de la terre battue va dire au revoir à son jardin aujourd'hui, en fin d'après-midi, sur le cours donc mythique. Philippe Châtrier, ce sera le premier grand moment de cette édition 2025 de Roland-Garros avec cette cérémonie en hommage à Rafael Nadal, le plus grand terrien de tous les temps. 14 victoires à Roland. Doit-il avoir encore plus? Une tribune? Un cours à son nom? Et pourquoi pas le cours Philippe Châtrier? La question a été posée il y a un mois au président de la Fédé de tennis, Gilles Moreton. Et voici sa réponse. On est au début d'une autre histoire entre Roland et Nadal. On a voulu se donner des priorités. D'abord, c'est l'hommage. C'est le démarrage de quelque chose. On envisagera avec lui beaucoup de choses. On a plein de projets ensemble dont on discute actuellement. Fin de citation. Le débat caché. Faut-il renommer le cours Philippe Châtrier en cours Rafael Nadal? Est-ce que vous êtes pour cette idée? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Sarah Pitkowski.
Bah si.
Ok, David Douillet.
Non.
Jérôme Pinault.
Oui.
C'est un 2 contre 2. Oh. Avant de débattre, on retrouve notre spécialiste tennis en direct de Roland, Anthony Reich. Salut Anthony.
Bonjour à tous.
Je parlais de cette cérémonie, hein, c'est le grand temps fort aujourd'hui, où les secrets sont bien gardés tout de même.
Ouais, c'est une cérémonie qui s'est préparée vraiment dans l'intimité, le plus grand secret entre seulement quelques interlocuteurs pour rendre hommage de la meilleure des façons à Rafael Nadal. Au cours de cet hiver, eh bien Gilles Moreton et Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, se sont déplacés à Manacor pour échanger avec l'Espagnol et comprendre ses attentes afin de lui confectionner un hommage à son image, simple, épuré et surtout avec toutes les personnes qui ont compté au cours de sa carrière qui seront présentes sur le cours Philippe Châtrier. Elle aura lieu en fin de ces de journée sur le cours central. Ça dépendra de la durée des matchs, mais a priori l'horaire idéal serait 19h si la session de journée est terminée sur le cours Philippe Châtrier. Pour l'occasion, l'Espagnol devrait notamment s'exprimer en français. On n'a pas encore le détail exact de ce qui se passera à 7h06. Ce qui est sûr, c'est que l'organisation a dû mettre en place un dispositif hors du commun, encore plus exigeant qu'un dispositif de finale porte d'Auteuil. Certaines zones du stade seront évacuées avant la cérémonie et enfin, les tribunes seront garnies d'un parterre de stars. Toute la planète tennis veut assister à ce moment hors du temps. Novak Djokovic, Andy Murray encore, ou encore Roger Federer devrait être bien présent ce soir pour dire une fois, encore une fois, merci à Raphaël Nadal.
Une cérémonie à suivre évidemment sur RMC. On ne connaît pas l'horaire, hein, ça dépendra des autres matchs sur le court Philippe Châtrier, mais ce sera en fin d'après-midi. Vous en saurez plus hein, cet après-midi. Toutes les informations sur rmcsport.fr. Merci beaucoup, Anthony Reich. Faut-il renommer le court Philippe Châtrier en court Raphaël Nadal? On a 5 minutes sur ce débat, les copains. Faites court, très incisif. Pourquoi oui, Sarah?
Parce qu'on n'y aura plus aucun joueur de tennis qui remportera autant de fois un tournoi du Grand Chelem dans une même période qu'aujourd'hui, comme le disait Marion, c'est effectivement son cours. Alors rebaptisé, mais en tout cas y ajouter, le cours s'appelle déjà le cours Philippe Châtrier. Philippe Châtrier a été président de la Fédération française de tennis.
Et joueur de tennis.
Non, surtout président.
Surtout président.
C'est le mec qui a permis au tennis français de multiplier son nombre de licenciés par 6. Ils sont arrivés à 1 million. Il a réintroduit le tennis au programme olympique. C'est un mec qui a façonné le tennis français.
Franchement, c'est un vrai. Mais ça n'a pas été un champion de tennis. Me tombe pas dessus. Aujourd'hui, le cours Philippe Châtrier, on a le cours Suzanne Langen. Suzanne Langen qui a été une grande joueuse de tennis. Et le troisième, c'est Simone Mathieu. Simone Mathieu qui a aussi été une très grande joueuse de tennis.
Que des Français.
Oui, que des Français. Mais
est-ce que vous imaginez une seule seconde que parce que Zidane a été un immense joueur du Real Madrid, on rebaptise le stade Santiago Bernabéu, stade Zinedine Zidane. Est-ce que vous l'imaginez?
Moi, Philippe Châtrier, Raphaël Nadal, ça m'irait très bien. Voilà, le central de l'US Open s'appelle Arthur Ashe et le stade s'appelle
deux stars américaines du tennis.
Mais on n'a pas un Français, qui aujourd'hui a un palmarès qui est comparable. De même, il n'y a pas un joueur sur cette planète, même dans l'univers, qui aura le palmarès que Nadal a eu sur ce cours central. Donc
non, mais que tu lui accordes le nom d'une tribune, je suis d'accord. Nadal, mais
moi,
je
ne serais pas choquée qu'on le fasse. En revanche,
moi, ça me choque pas parce que
si on lui trouve le nom d'une tribune, eh ben là, ça me choquerait un peu plus. Parce que c'est dégradant d'avoir le nom d'une tribune. Parce que lui, il a performé pas dans les tribunes sur le cours. Donc j'espère que si on lui donne
le carré le carré de service Raphaël Nadal, alors on peut lui donner.
Ok, bon, et il nous reste 3 minutes, les copains. David Douillet, plutôt oui pour toi?
Je trouve que changer le nom Philippe Châtrier, Raphaël, c'est chaud quoi. Enfin, on oublie tout quoi dans ce cas-là et change. Et Sarah, tu me dis, il y aura pas un autre joueur. Qu'est-ce que t'en sais?
Un joueur qui gagnera 14 Roland Garros, c'est.
Qu'est-ce que t'en sais? Il l'a fait lui. Et alors? Il faut encore changer le nom. C'est ridicule.
On changera le nom. C'est pas grave.
Moi je trouve que vous êtes l'histoire a son importance.
Moi
l'histoire a son importance et je trouve que c'est un peu importance. même l'hommage qui je vais être dur hein, l'hommage qui est fait aujourd'hui à Raphaël Nadal, il vient d'arrêter, c'est trop récent. Il aurait fallu laisser un peu plus de temps, tu vois, pour que sa légende de l'arrêt gonfle encore un peu. On a l'impression qu'il est décédé, le gars. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je trouve que c'est
parce que, tu sais pourquoi, David? Vraiment, parce qu'on a cette culture de donner le nom post-mortem.
Cherche des prétextes pour faire reluire un peu la compétition parce que les joueurs d'aujourd'hui, sont peut-être pas encore suffisamment connus.
Incisifs,
etc.
Tu peux pas dire ça.
J'ai l'impression qu'on c'est le sentiment que j'ai. Je trouve que c'est trop tôt, c'est tout. Alors, de là, en plus, à changer le nom du stade de Philippe Châtrier avec le sien, j'adore l'athlète, hein, j'adore tout ça. Je trouve que c'est extrêmement prématuré et que c'est pas justifié à ce stade. Voilà.
Jérôme Pinault.
Non, mais moi je suis pas de ceux qui disent que il faut changer les stades, il faut changer les noms, il faut mettre des noms de gens disparus. Non, au contraire, profitons de notre vivant, des gens, des légendes. On dit c'est pas l'histoire, dans 20 ans Nadal sera l'histoire. Alors faut changer le nom du stade dans 20 ans. C'est le même débat en fait. L'histoire, notre histoire à nous, c'est celle d'avant, mais l'histoire des gamins qui naissent là, ce sera Raphaël Nadal.
Vous voulez changer? Tu voudrais changer tous les noms des rues de Paris, des grandes villes de France?
Pourquoi pas?
Vous avez envie de faire ça? Non, mais cet éternel changement, je trouve que c'est démago, moi, votre idée là. Parce que lui il est plus connu, parce que lui on l'a connu, on va mettre ce nom à
l'avenue
des Champs-Élysées, on va l'appeler l'avenue Sarah Pitkovski. Tiens, ça va être sympa.
C'est marqué historiquement un des quatre tournois du Grand Chelem. historiquement, il n'y a pas un joueur qui a gagné.
C'est aussi grâce à Philippe Châtrier. Philippe Châtrier a rénové le sport. Il a modernisé son sport.
Oui, très bien. Mais
aussi grâce à lui.
Mais non, mais parce que Sarah l'a bien connu, elle était pas née quand il était là.
C'est aussi grâce à Philippe Châtrier, tu vois.
Il n'y a pas un joueur de tennis qui gagnera 14 fois l'US Open, 14 fois Wimbledon ou 14 fois l'US Open. Ce qu'il a réalisé est hors du temps.
Tu tournes sur le même argument. Il n'y a pas de problème. Cet argument s'entend, mais donc on va passer à autre chose. On a bien compris.
En tout cas, c'est plus important aujourd'hui.
Ah oui, c'est la musique, parce que c'est le grand moment pour vous, auditeurs. Vous pouvez remporter une chance unique de remporter vos billets pour la finale de la Ligue des Champions PSG Inter Milan. C'est samedi prochain. L'expérience RMC, c'est ce qu'on vous propose de vivre. Vous avez le vol, aller-retour Paris-Munich, la chambre d'hôtel et évidemment vos deux places pour cette rencontre fabuleuse. Vous envoyez maintenant PSG au 732-16, PSG au 732-16, il est 11h55. Vous avez jusqu'à midi, tout pile. Bonne chance à tous, chers auditeurs. Merci beaucoup les GG qui poursuivent le débat.
Nous, Roland Garros, voilà. Raphaël Nadal, c'était un aviateur. Oui, donc tu l'as pas connu, donc on dégage son nom. On va l'appeler autrement.
Voilà, exactement. Okay.
Et je précise évidemment, Christophe avait réalisé la première
interview. Est-ce qu'on pourrait pas renommer le sport tout simplement? Oublier tennis et on appelle ça, on va jouer au Raphaël Nadal. Okay. Allons-y.
Merci. Merci de votre mauvaise foi. C'est comme ça que je vous aime. Merci David, Jérôme, Sarah et Christophe. Cette émission est déjà à retrouver en podcast, évidemment.
Je mets 9 sur 10 sur ton débat.
Journée de feu sur RMC. C'est Sarah qui m'a soufflé ce débat caché d'ailleurs. Journée extraordinaire. Restez bien avec nous dans quelques instants. Les paris RMC avec toute la Dream Team. Qui va gagner Roland Garros? Allez, venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16. À tout de suite.